C'est une des images les plus mystérieuses et les plus fascinantes de la télévision d'aujourd'hui. Une image où s'entremêlent la hantise du mensonge et l'obsession de la sincérité. Une image où s'imbrique le péché et sa rédemption. Et oui, rien que ça. C'est l'image de Thierry Ardisson, notre invité d'aujourd'hui.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être là. Vous produisez et animez une émission hebdomadaire sur France 2 qui s'appelle Tout le monde en parle.
Avec Catherine Barma,
Vous la produisez avec Catherine Barma et vous l'animez tout seul, qui s'appelle judicieusement Tout le monde en parle, puisque tout le monde en parle de cette émission, notamment depuis la rentrée dernière, et notamment au sein de l'équipe d'Arrêt sur Image. Ici, on s'est rendu compte qu'on en parlait tout le temps, alors on s'est dit pourquoi pas en parler avec Thierry Ardisson de Tout le monde en parle. Mais avec Emmanuel Walter, tout au long de cette émission, nous allons aussi nous arrêter sur l'autre émission que vous animez et qui s'appelle Rive droite, rive gauche.
Oui, c'est sur Paris Première, qui est une chaîne du câble. C'est tous les soirs de 19h30 à 21h. On va voir tout de suite des images. C'est une émission où il y a des chroniqueurs qui parlent de littérature, de cinéma, de théâtre. Et parmi ces chroniqueurs, il y a une tête qui nous disait vaguement quelque chose. Hein, ça nous a un petit côté déjà vu, quoi, en fait. Et après, enquête, on s'est aperçu que la tête en question que vous voyez, et qui revient, c'est un chroniqueur récurrent.
Partie des trois du lettré trio avec Frédéric Becbédé et Jacques Weinstein. Voilà.
Et bien, ce fin lettré, c'est notre Arnaud Vivien,
ici
présent. Voilà, il est là.
Voilà, ce qui explique qu'aujourd'hui, ici, vous allez être dans une situation un peu délicate, puisque vous ne serez pas seulement chroniqueur, mais vous serez aussi reporter. On va vous demander des informations sur le vrai Thierry Ardisson, puisque vous le connaissez en vrai.
D'accord, vous connaissez ma devise, ni Dieu ni maître, donc...
Voilà, mais d'ailleurs, on a parlé au téléphone avant, j'ai demandé si vous vous sentiez libre par rapport à lui.
J'espère que oui.
Et la réponse a été oui. Donc
Bien sûr, on
jugera tout au long de l'émission. Alors, tout le monde parle de Tout le monde en parle, ça c'est un fait acquis. Et alors, cette semaine, exceptionnellement, tout le monde, ou en tout cas beaucoup de gens, ont aussi parlé d'Arrêt sur image, puisque vous savez que c'était la 200e la semaine dernière, on fait la 201e aujourd'hui. Alors, nos téléspectateurs, les journalistes se sont arrêtés sur Arrêt sur image, et essentiellement autour d'une question qui est revenue jusqu'à l'obsession, c'est pourquoi sur ce plateau où étaient invités quatre responsables de chaînes de télévision, pourquoi il n'y avait personne d'M6? Alors, du courrier, des... Alors ça, c'est que les emails qu'on a reçus, le courrier papier va suivre parce qu'il arrive plus lentement, et la presse aussi. Alors par exemple, Le Figaro a titré « Arrêt sur un oubli », bon, c'était clair. Le Journal du Dimanche, le lendemain, a titré « Ah tiens, arrêt sur un oubli », voilà. Si on était parano, on pourrait penser qu'il y a une campagne, mais on est absolument pas parano. Alors, comme tout le monde en a parlé, je suis obligé d'en parler aujourd'hui. Pourquoi pas M6? Je suis désolé de vous annoncer que la vérité est tragiquement banale. Pourquoi pas M6? Parce qu'il y avait déjà quatre invités, ce qui représente un sommet pour Arrêt sur image, où on essaye toujours de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer dans la longueur, et qu'il a fallu faire ce qu'on fait dans toutes les émissions de télé, dans tous les journaux, choisir, faire un choix. Et en l'occurrence, je me suis dit qu'on avait moins de questions à poser à M6 qu'aux autres chaînes. M6 étant une chaîne que je considère, mais c'est un choix, comme globalement heureuse, et les chaînes heureuses n'ayant pas d'histoire, comme chacun sait, ou en tout cas ayant moins d'histoire que les autres. Mais enfin, on s'arrêtera à l'avenir, évidemment, à chaque fois qu'il en sera besoin, sur les images d'M6, est-il besoin de le préciser? Alors, en attendant, on va s'arrêter sur les vôtres, donc pendant toute l'émission d'aujourd'hui, vos émissions, puis votre image à vous. Et alors, essentiellement, sur moi, ce qui me frappe le plus depuis quelques mois, c'est l'évolution de cette image dans le temps. Bon, vous faites de la télévision depuis...
15 ans, j'ai commencé en 85, avec une émission qui s'appelait Scoop à la Une, le dimanche après-midi sur TF1.
Voilà. Et alors, depuis, entre l'image du Ardisson d'il y a 15 ans et l'image du Ardisson d'aujourd'hui, celui de Tout le monde en parle et celui de Rive droite, Rive gauche, il m'a paru qu'il y avait un abîme tout à fait étonnant, fascinant.
Tant mieux, parce que c'est vrai que j'étais pas brillant au départ.
Alors, on va revoir, puisque pour apprécier un itinéraire, il faut connaître le point de départ de cet itinéraire. Puis on a aussi quelques jeunes téléspectateurs qui, à l'époque, ne regardaient pas forcément vos émissions. Donc Ardisson, il y a 15 ans, il y a 10 ans, ça ressemblait à ça.
Première partouze.
Ah, ça c'était...
Mais avec tout ce que tu t'envoies, t'avais pas peur qu'il soit un peu mongolo, Lulu, non?
Qu'est-ce qu'il est fou, foyer. Hein.
Ouais, est-ce que tu es sensible des tétons?
Ouais.
Très sensible, ouais. Même s'ils sont petits.
Ouais, ouais, tout à fait.
Tu veux pas m'en montrer un?
Ah non. Bout.
Non.
Bah, baisse ton pantalon, ah, non, je non, laisserai non, mon soutien gorge.
Et tu, je peux toucher, voir la fermeté, non?
Bah ouais.
Ah.
Tu peux toucher?
Enfin, ah ouais. Vas-y, dis donc, tu as plutôt le sentiment d'être clitoridienne ou vaginale comme fille?
Je pense tous les deux.
Tous les deux?
Ouais, ça dépend.
Tu penses?
Tu vois, je veux dire, quand ça va pas d'un côté, mieux vaut essayer de l'autre.
D'accord.
Tu sais.
Donc, et tout à fait de l'autre, et anal aussi.
Ah non. On ne touche pas les fesses.
Voilà, je ne sais pas si ça vous fait de revoir ça.
Bah, ça me fait d'abord, je renie rien, hein, parce que je pense que quand je suis arrivé à la télé il y a 15 ans, il y avait encore un ton très compassé, la télévision, des sujets qu'on n'abordait pas. Donc je suis ravi d'avoir brisé quelques tabous dans le discours télévisé. Ça, c'est le premier point. Donc je renie rien. Ça me fait marrer de revoir ça, franchement. Ça plaît moins à ma productrice. Et moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Ce qu'on oublie quand même de dire, souvent, quand on fait ce genre de rétrospective, c'est que si on prend une émission comme Lunettes Noires pour Nuit Blanche, par exemple, j'ai dû recevoir, je ne sais pas combien, mais d'écrivains, de peintres, de sculpteurs, de photographes, etc. Je crois que dans le premier bain de minuit, par exemple, il y avait Francis Bacon. Enfin, ce que je veux dire, c'est vrai que ça a été réduit. J'ai été réduit à ça. Vous dites, vous avez changé, oui.
Et mais, c'est ce que nous, on vient de faire, alors. On vient de vous réduire à ça.
Oui, non, mais le regard des gens. Non, parce que Daniel Schneiderman disait, vous avez changé en 15 ans. Bien sûr, heureusement. Mais en même temps, c'est aussi le regard des gens sur moi qui a changé. Ouais. Parce qu'à l'époque, quand j'interviewais Francis Bacon ou Peter Sellars, ça passait un peu inaperçu. En
c'était
revanche,
noyé,
quand je demandais à Charlotte de Turckheim sa première partouze, puis sa deuxième partouze, tout le monde disait, vous avez vu, il lui a parlé de sa partouze.
Oui, mais c'était fait pour.
Ah non, non, mais je renie rien du tout. Non, mais attendez, je suis en train de.
Et c'était même fait pour qu'on le retienne.
Bien entendu, mais non, mais c'est fait avancer les choses à un moment. Maintenant, c'est fait.
Ardisson hier, Ardisson aujourd'hui, léger changement de ton, ça donne ça.
Je reçois maintenant le cinéaste et philosophe Claude Lanzmann pour la rétro que lui consacre la Cinémathèque de Chaillot. Après la guerre, vous vivez toujours un peu dans la terreur. Et là, vous lisez Réflexion sur la question, premier contact avec Sartre, Réflexion sur la question juive de Sartre. Et là, vous êtes le fait d'être reconnu par le plus grand écrivain français de l'époque vous donne du courage. Enfin, finalement, vous avez peut-être envie de quitter la France à ce moment-là. Et là, ça vous décide à rester d'une certaine façon.
Vous avez bien préparé votre travail.
Bah, c'est normal, c'est la moindre des choses. Oui.
Sartre a commis plein d'erreurs, mais pas celle-là. Alors, je crois qu'en 1940, il s'est bien conduit.
On va parler de la guerre. Donc, pendant la guerre, il écrit dans Comédia. Alors, évidemment, il n'a pas fait de texte collaborationniste. Enfin, il a quand même écrit dedans. Il fait jouer les mouches devant un parterre d'officiers nazis.
Mais non. Il fait jouer les mouches devant la jeunesse de Paris.
Des officiers nazis qui
allaient
au théâtre.
Devant la jeunesse de Paris. Devant Alexandre Astruc. Devant Jean Duvigneau. Devant, moins jeune, Jean Paulhan, qui sort de là en disant « J'ai vu la première pièce... »
Attendez. Non, mais je vous adore.
« J'ai vu la première pièce anti-vichiste de l'occupation. »
Oui, c'était un peu anti-doloriste ou anti-merculpiste, comme vous dites.
Mais pas,
oui, pas un peu.
Peu.
Enfin, vous y voyez, effectivement.
Mais pas j'y vois. Les témoins de l'époque, les jeunes gens qui vont voir cette pièce, sortent galvanisés.
Je reçois maintenant Jean Baudrillard pour la parution chez Galilée de l'échange impossible. Jean Baudrillard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dites pataphysicien à 20 ans, situationniste à 30, utopiste à 40, transversal à 50 et viral et métaleptique à 60. Alors, ça veut dire quoi, viral? Là, on est en plein Baudrillard.
Et maintenant, j'en ai 70.
Viral et métaleptique, ça veut dire quoi?
Oh, viral, bon, tout le monde comprend ça. Ouais.
Honnêtement, rassurez-nous, vous avez compris.
Pas tout.
Viral et métallique.
Non, pas tout.
Nous, Baudrillard, par exemple, honnêtement,
non, mais
on n'a pas compris.
Baudrillard, honnêtement, c'est bien que ce qui fait son charme, c'est qu'on comprend pas tout.
Bon, mais alors, cela dit, vous comprendrez quand même qu'en ayant vu ces deux-là, on se pose des questions. On se demande qu'est-ce qui s'est passé.
Il s'est passé deux choses. D'abord, j'ai vieilli, j'ai pris 15 ans, hein, donc je suis à maturation lente, moi. C'est-à-dire, je devais être à l'âge de 40 ans, je devais être à peu près à l'adolescence. Donc je suis, j'ai vieilli, j'ai mûri. Et puis aussi, c'est une autre partie de moi-même que je révélais pas à l'époque. C'est vrai aussi qu'à l'époque, je me rends compte maintenant que je révélais un seul côté, un peu tête à claque, un peu roqué, un peu fouille-merde, comme ça. Mais j'ai toujours lu, enfin publié mon premier livre, j'avais 21 ans, donc j'ai toujours écrit, j'ai toujours lu, je suis toujours allé au cinéma. Simplement, j'avais moins envie de le montrer. Il me semblait qu'il était plus intéressant d'attaquer la télévision en se servant de la provocation comme brise-glace et... aujourd'hui, disons que ça me semble moins nécessaire.
Moins nécessaire parce que d'autres le font ?
Parce que d'autres l'ont fait, parce que tout le monde le fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, l'histoire du tutoiement, moi j'étais le premier à tutoyer tout le monde, puis maintenant tout le monde tutoie. Donc moi je vous vois, parce que ça m'énerve beaucoup que tout le monde se tutoie à la télé. Puis je pense aussi qu'à l'époque, les gens avaient besoin qu'on brise un certain nombre de barrières. Je dis, ils ont besoin de repères. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin de... Enfin, ce qu'on fait dans Rive droite, Rive gauche, c'est qu'on est un peu des vulgarisateurs, des passeurs de culture.
Donc, il y a eu une heureuse coïncidence. Finalement. Vous avez changé. Il se trouve que la télé a changé dans le même sens et que finalement, les deux évolutions sont
aujourd'hui,
sont
les gens veulent
parce qu'on est obligé de se poser la question un peu de l'opportunisme quand on voit cette évolution. On se dit, sans doute qu'il y a une partie qui est incontestablement sincère. Vous avez vieilli, vous avez maturé. On se dit, est-ce qu'il sent pas que dans l'ère du temps aujourd'hui, c'est mieux porté
de... Enfin, si ça suffisait, si quelqu'un qui était un animateur, disons, un peu... Imaginons que j'ai été un peu creux à une certaine époque, qui, comme je vous l'ai dit, n'était pas complètement le cas, qui se disent bah, aujourd'hui, ce qui est vachement bien, c'est d'interviewer Baudrillard et Claude Lanzmann. Encore faut-il pouvoir le faire. Je veux dire, donc, si c'est...
Et quand vous invitez Baudrillard, c'est par une vraie curiosité, une vraie gourmandise pour l'œuvre de Baudrillard, ou c'est parce que ça fait chic dans une émission de télé, parce que ça la pose,
très chic,
ça la pose, non, ça lui donne du standing d'avoir
c'est
Baudrillard.
Chic. Il est rare à la télé. Donc
non, c'est chic, bien entendu que c'est chic. Mais en même temps, non, moi je suis intéressé réellement, ça se voit d'ailleurs quand je fais les interviews, je suis vraiment intéressé par les gens qui sont sur mon plateau, mais ça peut être Samy Nasseri ou Baudrillard. Je veux dire, pour moi, c'est des destins, c'est des...
Le verdict d'Arnaud Vivian, alors qu'il lui participe à Rive droite, Rive gauche, et connaît le vrai Ardisson.
Sur le changement.
Déjà, je crois que c'est quand même normal que Thierry Ardisson préfère interviewer finalement Jean Baudrillard plutôt que Love Amour. Il y a un moment quand même, voilà, je sais pas, on est tous dotés d'un cerveau, à un moment ça doit se sentir. Je crois que ce que vous dites pas là, dans cette présentation, c'est que... Moi, c'est mon avis sur Thierry Ardisson, c'est qu'avant tout, c'est un publicitaire. Et donc, il a un vrai sens de l'air du temps. Il a eu un très bon sens de l'air du temps dans les années 80. Et il voit très, très bien où on en est à la fin des années 90, début des années 2000.
Bah, c'est un opportuniste, alors.
C'est le retour du sens, c'est le retour de l'idéologie. L'émission s'appelle Rive droite, Rive gauche, et évidemment pas par hasard. Pas simplement parce qu'il y a la scène comme décor, c'est un retour à l'idéologie.
C'est Paris Première.
Et donc là, il a senti ça. Il a senti qu'effectivement, il fallait mieux aujourd'hui inviter Jean Baudrillard que le...
Ah bon, bah alors il n'est pas sincère, alors. C'est de la publicité, c'est de la pub.
Je pense
encore
une fois, je crois que tout le monde a plus envie de parler au bout d'un moment, quand même. À un certain âge, on a plus envie de parler avec Baudrillard qu'avec Love Amour.
Mais
en plus.
Hein pour l'estime de soi.
C'est ça, non, mais bien
non,
sûr.
Pas simple.
Ce qu'il faut dire, pardon, mais ce qu'il faut dire, c'est que j'ai passé 3 ans, je ne dis pas au chômage, parce qu'il y a des vrais chômeurs. Donc, disons au chômage avec des gros guillemets, disons 3 ans sans faire d'antenne. C'est vrai que la télévision, moi, ça m'est arrivé à 35 ans, ça m'est un peu tombé dessus par hasard. Je vivais ça d'une façon un peu désinvolte, un peu comme un coup de bol qui m'était arrivé, mais sans penser y rester si longtemps que ça. Et puis, j'ai passé 3 ans sans en faire, et je me suis dit, arrête de bouder ton plaisir, tu peux faire ça bien. Ça peut servir à quelque chose, ça peut être utile, tu peux le faire d'une façon sérieuse. Et ça, je crois que ça, pour répondre à votre question, je crois que ça a joué aussi le fait de, pendant 3 ans, ne pas en faire et de me dire, est-ce que tu as vraiment envie d'en faire? Oui, bah, si tu en fais, fais-en bien. Et ça ne m'empêche pas de plaisanter avec des starlettes, mais disons que...
Enfin, quand je parlais de rédemption tout à l'heure, le terme pouvait paraître grandiloquent, mais en fait, il y a un peu de ça, quoi.
Oui, c'est vrai, oui. Non, mais j'ai envie d'être meilleur, moi.
OK. Alors, on va s'arrêter quelques instants sur d'autres images que les vôtres. Il a été... on a su cette semaine, ça n'a pas été annoncé officiellement, mais on a su cette semaine que Routel Krief, qui animait l'émission 19h dimanche sur TF1, allait s'arrêter le 28 mai prochain, allait faire sa dernière le 28 mai prochain. C'était dans les journaux de cette semaine. Voilà, François a annoncé Routel Krief la fin, et le Figaro a annoncé Routel Krief débarquer. Alors cela dit, quand on regardait attentivement TF1 depuis quelques semaines, on pouvait quand même se douter de quelque chose, hein, Emmanuel.
C'était spécial. Alors par exemple, si on voulait regarder, supposons que j'ai eu très envie au mois de mars de regarder 19h dimanche, hein, ça se conçoit, donc prenons le 5 mars, je suis devant ma télé, il est 19h, dimanche, et voilà ce à quoi j'ai droit.
Eh bien écoutez, voilà, nous allons maintenant débuter ce tirage au sort des quarts de finale. Thierry, à vous la première boule peut-être.
À vous l'honneur.
Donc c'était pas 19h dimanche. Alors le 12 mars, je suis un peu rassurée. Regardez.
Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous de 19h dimanche. Ce soir, c'est Raymond Barre, le député maire de Lyon, qui sera notre invité.
Voilà, fallait être fidèle, fallait pas le rater.
Ouais,
la fidélité, c'est dur dans ces rendez-vous. Voilà. Donc Raymond Barre, qui avait été grippé 15 jours avant, qui n'avait pas pu venir, qui avait, la mission avait dû être annulée, qui était de retour guéri. Voilà.
Et qui, contrairement à ce qu'on avait dit ici même, il faut faire un mea culpa, là, ne portait
un
pas...
Un peu de rédemption.
un peu de rédemption. Pas la Légion d'honneur à sa boutonnière, mais l'ordre du mérite.
Vraiment voilà. Ce qu'on avait dit. Voilà. Donc là, on est le 12 mars. Le 19 mars, pleine d'allant, j'allume à nouveau mon poste. Nous sommes 19h dimanche. Et là, c'est ça. Voilà, c'est pas Routel Krief. C'est donc un coq. Et c'est 30 millions d'amis. Voilà. Et dimanche dernier, voilà ce à quoi j'ai eu droit, à 19h dimanche. Donc là non plus. Il n'y a pas de doute, c'est pas Raymond Barre, c'est le Grand Prix du Brésil de Formule 1. Voilà.
Alors, est-ce que par hasard, au mois de mars, Rutel Krief aurait été en douce déprogrammé par TF1 sans que personne le sache et sans que personne le dise?
Je ne sais pas. Je peux vous dire ce que je sais. Ça, je ne peux pas répondre directement à la question. La version officielle, c'est qu'il y avait des matchs de la Coupe de France. 8e de finale, quart de finale. Fais attention à ce que je dis, parce que ce n'est pas ma spécialité.
Comptez pas sur moi pour vous corriger.
Voilà. Et que ces matchs-là, souvent, il y a des prolongations. Bon, donc, même s'ils ont lieu, s'ils commencent au milieu de l'après-midi, on peut craindre que ça déborde. Et plutôt que d'annuler au dernier moment un homme politique important, on se dit qu'il vaut mieux annuler carrément l'émission de Rutel Krief, s'il n'y a pas de souci. Simple. Et après, on programme, par exemple, 30 millions d'amis ou Vidéogag ou ce genre de choses. Ça, c'est la version officielle. Voilà. Et comme par hasard, bon, c'est vrai que ça tombe. Ces deux matchs ont empêché à deux reprises l'émission de Rutel Krief d'avoir lieu.
Et au total, ça donnait beaucoup quand même de déprogrammation. Mais enfin,
le
fait que ça s'arrête pour de bon le 28 mai peut expliquer les choses. Alors, dans le même article du Figaro qui retraçait cet arrêt, on disait que TF1 avait songé à vous pour succéder à Rutel Krief à 19h et que vous aviez refusé.
Absolument.
C'est vrai ou c'est pas vrai?
C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire
on vous a appelé?
Oui, on m'a appelé. D'abord, dans un premier temps, c'est des producteurs qui s'appellent Éléphant. C'est Thierry Bizot et Emmanuel Chin qui... J'avais connu sur la 6.
Ah oui, mais c'est pas TF1, ça.
Non, c'était eux m'avaient proposé à TF1 et me disaient, ils sont d'accord, etc. Donc on a discuté un petit peu ensemble, ça s'est pas très très bien passé. Ensuite, c'est Étienne Moujotte et Xavier Couture qui ont pris les négociations en main.
Qui vous ont appelé?
Qui m'ont appelé. Et ils me proposaient un contrat de 2 ans, effectivement, pour faire le 19h de la case, disons, de Rutel Krief, d'Anne Sinclair, de Michel Field, et voilà.
Pourquoi vous avez refusé?
J'ai refusé d'abord parce que je suis heureux sur France 2, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de liberté d'expression, je dis à peu près tout ce que je veux, ce qui est important pour moi, comme vous l'avez souligné en commençant.
Et ça n'aurait pas été le cas sur TF1?
Disons que j'étais moins sûr, voilà. J'étais moins sûr parce qu'il y a des intérêts croisés dans les chaînes privées. En plus, si vous voulez, c'est normal. Si c'est une chaîne privée, elle est soumise à d'autres influences.
C'était ça, il ne fallait pas commencer à négocier, alors il fallait dire ça ne m'intéresse pas.
Ah bah, c'est toujours flatteur quand même d'avoir mon chat au téléphone le matin. Non, attendez,
c'est pour le plaisir.
Oui, pour le plaisir. Et puis c'est vrai, donc quand même j'ai envisagé la chose, parce que pour moi c'est un changement, là encore une fois, de cap d'une certaine façon. Mais sur France 2 le samedi soir, moi j'aime bien m'amuser en fait. Je pense qu'on en parlera, mais c'est un peu comme
c'est
par
ludique.
Rapport à Pivot. On dit, Ardisson veut absolument remplacer Pivot. Non, moi je suis très heureux avec Cad et Olivier, Mon Sampleur.
Mon sampleur, c'est pour les
mon piano, ce que vous appelez un piano. Oui. Voilà. Je suis très heureux, je m'amuse bien. Moi, j'ai besoin. Je fais une émission relativement sérieuse toute la semaine qui s'appelle Rive droite, Rive gauche. Et c'est vrai que le samedi, j'ai besoin de me marrer comme tout le monde.
On vient de parler 5 minutes finalement d'une proposition que vous avez déclinée et d'une chaîne où vous n'irez pas. Et c'est vrai que dans la presse, quand on lit un peu ce qui vous concerne, c'est ça en permanence. Par exemple, depuis quelques semaines, on a lu avec attention ce qui vous concerne. Alors, il y a une petite revue de presse. Hein. Alors, Le Parisien, le 28 février, expliquait que vous pourriez remplacer Nagui. Bon, d'accord. On va finir. Le lendemain, badaboum, mise au point, Ardisson dit non à Canal+. Oui. Le surlendemain, toujours dans Le Parisien, c'est Pierre Lescure qui, à son tour, monte au front et dément tout contact. Mais enfin, vous l'avez quand même pris de vitesse, vous avez démenti avant lui. Alors ensuite, autre rumeur dans l'Express, ça c'est la rumeur 19h dimanche.
C'était vrai, ça.
Vous venez de nous expliquer que c'était vrai. Le Monde, évidemment, avec le sérieux du journal de référence, retrace chacun de ces épisodes par le menu, l'affaire TF1, l'affaire Canal+, très bien. Et épilogue fracassant dans le journal du dimanche, révélation bouleversante, pleine page, parce que ça vaut quand même bien ça, Ardisson reste sur France 2, formidable.
Voilà. Bon. Tout ça pour ça.
Tout ça pour
comment vous faites? Pour qu'on parle de vous sans arrêt. Quoi qu'il se passe...
Je sais pas, Vivian vous dirait que j'ai été publicitaire, donc peut-être que ça... Non, d'abord... D'abord, je ne me donne pas de mal pour qu'on parle de moi. Mais on parle de moi parce que, je ne sais pas, je suis... Ça me fait plaisir qu'on parle de moi.
Oui, ça vous donne sans doute.
Je ne veux pas dire le contraire, ça me fait plaisir. Si vous voulez, le fait d'être un petit peu comme ça, demandé, c'est normal. Enfin, je veux dire, quand on atteint un certain niveau au box-office,
vous verrez, c'est normal. J'en suis encore très loin, mais accessoirement, ça peut contribuer à faire monter un tout petit peu les enchères.
Ça peut aider. Ça peut aider parce que c'est quand même 15 ans que je fais de la télé maintenant. J'ai vérifié qu'en fait... à la télévision, c'est peut-être pareil dans d'autres métiers, j'en sais rien, mais les gens vous prennent au sérieux quand vous avez une proposition ailleurs. Sinon, c'est plus difficile.
Voilà, ça, c'est de la sincérité, ça. Voilà. Le nouveau Ardisson, ça. Bon, alors, vous avez parlé plusieurs fois de Tout le monde en parle. Je crois que les téléspectateurs, maintenant, ont envie qu'on leur parle de cette émission.
Supposons que certains ne la connaissent pas.
Voilà, supposons.
Ça peut arriver.
Ça arrive. Voilà,
oui, ça peut arriver. Donc, tous les samedis soirs, petit exemple, vos téléspectateurs sont accueillis comme ça.
Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle. Vous connaissez le principe, tout le monde en parle. Alors, tout le monde en parle. Merci.
Voilà, tout le monde en parle, Alors, vous avez dit que vous étiez, j'ai lu ça, concepteur de produits médiatiques. Prenons le produit, tout le monde en parle. Oui. Et essayons de montrer un peu ses ingrédients pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, j'ai pris l'exemple de l'émission avec Édouard Balladur le 18 mars. Édouard Balladur, c'est le monsieur en bas à gauche et c'est l'homme important, le politique. Vous invitez toujours un politique ou parfois un syndicaliste. Et puis, vous invitez aussi tout le gratin du show business. Alors, ce n'est pas vraiment surprenant. Hein. C'est David Hallyday, c'est la chanteuse Liane Folie.
Je peux vous interrompre, Emmanuel ?
Juste après, Liane Folie, Emmanuel Béard, actrice bien connue, Adriana Carambeu, qui est mannequin, à côté un tennisman qui n'est pas non plus totalement inconnu, puis qui s'appelle Cédric Pioline. Voilà, donc ça, c'est les invités showbiz. C'est pas décoiffant,
en fait. Non, en fait, ce qu'on essaye de faire, si vous voulez, pour vous donner les recettes du produit, comme vous disiez, c'est vrai qu'on essaye d'avoir chaque semaine un homme politique, un humoriste, un chanteur, un acteur. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas.
C'est pensé.
C'est pensé, voilà.
Ah, bon, on avait bien compris que
c'était pensé.
Alors, vous dites que vous êtes très très créatif. C'est pas faux. On a examiné votre créativité dont tout le monde en parle. Alors, une petite trouvaille, l'interview mensonge, ça consiste à répondre le contraire de ce qu'on pense. Voilà. Un petit exemple.
Alors, l'interview mensonge, Enrico, c'est très compliqué.
C'est à moi que ça tombe.
Est-ce que vous gagnez bien votre vie ?
Non, je suis un pauvre type. Donnez.
Voilà, aux trouvailles. Rapidement, l'opération Barbichette, c'est rigolo, c'est Linda Hardy, votre ex-co-animatrice qui tient la Barbichette de Michel Charras. Il y a l'image, l'autre trouvaille, c'est l'image qui devient toute rose au moment où vous passez la musique de La Croisière s'amuse. Là, on offre un bouquet à Christine Boutin. Ouais. Et puis, autre petite trouvaille rigolote, la mosaïque sur le visage des hommes politiques ou des invités quand ils risquent d'employer la langue de bois, par exemple.
Et là, vous voyez tout ce que vous venez de dire là, je suis ravi qu'on en parle.
Et attendez, j'ai pas fini. Oui. Laissez-moi finir, vous êtes encore plus ravi, parce que la trouvaille dont vous êtes le plus fier, c'est ça. C'est le sampleur, le piano, le synthétiseur, le mini jukebox. Là, vous lancez des extraits de chansons au moment opportun pour réagir, pour contredire ou pour souligner ce qui vient d'être dit. Un exemple pratique concret. Linda Hardy demande au comique Jamel s'il n'a pas l'impression d'être le beurre de service sur Canal+. Il nie avec une belle constance et voilà ce qui lui arrive.
Et en fin de compte, non.
Et en fin de compte,
non. Jamais.
Bon, ça veut dire à chaque fois qu'il va appuyer sur un bouton, vous allez applaudir comme des imbéciles.
Bon, est-ce qu'il faut en parler encore maintenant qu'Emmanuel en a parlé ?
Non.
Voilà. Donc,
mais merci d'en avoir parlé, parce que je le dis quand même. Je trouve que souvent on me parle de la drogue ou de la monarchie, ce qui me plaît beaucoup aussi. Mais là, je suis ravi que vous ayez fait ça, parce que je pense, comme vous l'avez dit, je suis un inventeur. Et
j'ai dit que vous qui l'aviez dit.
Mais quand on voit ça, personne n'en doute.
Plus personne n'en doute. Bon, alors cela dit, dans Tout le monde en parle, il y a aussi quand même des invités, des gens qui parlent, et notamment des hommes politiques. Ils sont intéressés en priorité aux hommes politiques, et ça compte aussi pour beaucoup dans l'intérêt de l'émission. D'autant plus qu'ils y apparaissent quand même très très souvent sous un jour, pour le moins inhabituel, un petit montage.
On va accueillir un homme politique maintenant.
Okay.
Vous êtes sage ?
C'est qui ? Quel parti ?
Il rigole pas, lui.
C'est quel parti ?
C'est ce parti-là.
Oh, ça va.
Maxime Grelette.
Je ne croyais pas, je ris.
Bon, alors, est-ce que vous êtes volage ?
Je suis marié.
Ouais, donc là, comment...
Donc, il est volage.
Donc, je me suis marié en 85. Je me suis marié en 85. Mais je la connaissais depuis pratiquement une dizaine d'années avant.
Bon, bah donc ça va pas tarder.
Ouais, bah oui, ça arrive doucement.
Je vais arriver à la date fatidique.
Madame Muselier, préparez-vous.
Chérie, c'est pas vrai.
Madame Muselier, le démon de Didi.
Elle était habillée comment la dernière fois que vous l'avez vue ?
Une robe blanche.
Ah, vous en souvenez ?
Bien sûr.
C'était au bout de 5 ans de mariage, les mecs ne se souviennent plus du tout de la façon dont
leur femme
est habillée.
Non, mais c'est bien, sans souvenir.
Une petite robe blanche.
Une robe blanche ? Oui, j'ai pas dit petite.
Bon, mais Chantal, je vais quand même dire à Chantal que félicitations, parce qu'après 30 ans de mariage, il se souvient encore de la façon dont vous êtes habillée. Bravo, Chantal.
31 ans de mariage.
Oui.
C'est parce que vous dormez à poil, comme vous dites. Ça marche toujours.
Écoutez, c'est le résultat d'écoute réciproque, d'acceptation de l'autre.
Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois ?
Je pleure pas beaucoup. Je le regrette d'ailleurs parce que...
Il
n'y
a pas de déshonneur à pleurer.
Non, mais enfin c'est comme ça. Je le regrette parce que ça... Quand ça se produit, ça soulage. Ben, la dernière fois, c'était pour quelqu'un de... de chair et que j'ai perdu. Voilà.
Inattendu, hein.
Oui.
Franchement, inattendu. Alors, d'ailleurs, souvent très enfin, ils apparaissent dans un jour très sympathique, beaucoup plus sympathique que dans les émissions politiques traditionnelles, au point que pourrait naître le soupçon qu'ils viennent chez vous, justement, pour se donner un vernis de sympathie et oui. que vous favorisiez ça. Alors, par exemple, il y a une accusation qui a été portée cette semaine dans l'hebdomadaire Paris Match, précisément à propos de cette émission d'Edouard Balladur, un petit article, Comment ça se passe chez Ardisson, où on dit que Balladur a finalement supervisé le montage de l'émission et a donné son accord à l'émission montée.
Oui, j'ai donc adressé un droit de réponse à Paris Match, qui sera publié, je pense, dans le prochain numéro. L'article en question disait que Edouard Balladur, j'avais envoyé mes questions. Et il se trouve que, c'est ce que j'explique dans le droit de réponse, à un moment, je dis Edouard Balladur... Alors, c'est vrai qu'il y a des discussions avec l'entourage avant de faire une émission avec un homme politique, c'est clair. Et à un moment, je dis à Edouard Balladur dans l'émission, tout le monde m'a dit de ne pas vous parler du fait que vous soyez d'origine turque.
Eh bien, je vais le faire.
Ben, je vais le faire. Donc, s'il y avait une connivence, en tous les cas, pas là-dessus. Et c'est un problème, tout le monde le sait, qui chez lui est très... Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais était très sensible. Bon, ensuite, là, dans le même article, Routel Krief dit qu'on fait 7 heures de tournage. On fait 3 heures de tournage pour une émission de 2 heures, ce qui est tout à fait dans l'habitude, enfin dans la moyenne. 7 heures de tournage, c'est beaucoup. Donc, je comprends, suite à ce que vous avez dit tout à l'heure, comme on m'a proposé de la remplacer, je comprends que Routel Krief soit un peu chagrin en ce moment, c'est normal, on le saura à sa place.
Mais vous niez qu'Edouard Balladur ait assisté au montage
Vous rigolez, le montage, il se fait la nuit chez VCF. Vous imaginez Edouard Balladur.
Vous lui avez envoyé la cassette de l'émission montée.
Jamais.
Très bien.
Il m'a même appelé à un moment en me disant certaines choses dont je n'ai pas tenu compte. Mais moi,
C'est-à-dire qu'il voulait que vous supprimiez des passages
m'a appelé, disons.
Cadet Olivier qui fait semblant de lui serrer la main, qui enlève la main, par exemple.
Pour rien ne vous cacher.
Au hasard.
Ce que je veux dire simplement, c'est qu'alors là, vraiment, je me fais fort, justement, de tenir tête à ce genre de pression. Et Michel Cotta m'aide là-dedans, je dois le dire.
Elle a eu à le faire dans l'affaire Balladur ?
Non, elle n'a pas eu à le faire dans l'affaire Balladur, mais d'une façon générale, je sais que je suis assuré de son soutien. D'accord. Et je ne pense pas que sur toutes les... Je ne connais pas la cinquième, mais en tous les cas, il y a des chaînes que je connais... Où le patron me dirait, écoute, t'es gentil, tu coupes ça, et puis tu me
mets en tout cas, rien de tel sur France 2. Dont acte. Alors, c'est vrai qu'ils apparaissent dans les images qu'on vient de voir très sympathiques, et pourtant, bien souvent, vos questions sont très directes, à la limite de la brutalité, ce qui peut paraître un tout petit peu contradictoire. Alors, pour permettre de voir, un montage des questions de Thierry Ardisson.
On passe à Mitterrand.
Oui.
Alors, Mitterrand, vous avez un truc qui me fascine chez vous, vous êtes un certain nombre dans ce cas-là, d'ailleurs, il y a Jack Lang, il y a Roger Hanin. C'est-à-dire que plus on vous apporte des preuves d'une attitude, je dirais, pas claire de Mitterrand, plus vous continuez à nier. On dirait la secte Moon ou la Scientologie. C'est-à-dire, on vous dit, Mitterrand, Bousquet, il était très copain. On vous dit, Mitterrand, il avait la Francisque, Pétain lui avait donné la Francisque. On revient sur les RPR. Seule question, moi, que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi il y a 6 candidats et pourquoi se donner autant de mal pour être le patron d'un parti aussi pourri? Non mais franchement,
ça part bien, hein.
En 97, le RPR a reçu 235 millions de francs. Alors vous qui vouliez
par
pas
personne.
Être... vous qui vouliez pas être subventionné, il est où le pognon là?
D'abord, on paye un loyer qui est très cher.
Bah, ouais, 235 millions. Je dis pour ma mère, maman, ça fait quoi, 23 milliards de centimes hein, quand même. Hein. Quand l'URSS intervient en Afghanistan, vous êtes d'accord avec le fait que l'URSS intervient en Afghanistan? Vous dites que c'est le Pakistan qui a attaqué l'Afghanistan, donc c'est normal que l'Afghanistan fasse appel à l'URSS.
Vous savez,
de 95 à 98, vous étiez secrétaire de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Vous avez des infos particulières sur la vente des frégates françaises à Taïwan, non? Non, je ne sais pas, mais vous allez me dire que non, ou que c'est pas grave.
Non, j'en ai pas.
Ouais.
Alors évidemment, c'est très bien parce que c'est très direct, c'est très jubilatoire pour les téléspectateurs. Est-ce qu'il n'y a pas, à un certain moment, quand par exemple vous demandez à De Vélgian, il est où le pognon, là? Est-ce qu'il n'y a pas le risque de verser dans un certain populisme?
Si, tout à fait. Non, c'est vrai qu'il faut faire attention. C'est vrai que c'est facile quand on a la télé, on a un pouvoir considérable, et 2,5 millions de gens devant le poste. Il faut faire attention de ne pas sombrer dans le poujadisme ou dans le populisme. En l'occurrence, si vous voulez...
Là, c'est... par exemple, ce ton-là...
Non, là, le ton, il est un peu comme ça, un peu trivial, un peu samedi soir. Mais disons que non, là, ça va encore. Non, ce que je veux dire par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est très bien, parce qu'on dit, par exemple, je reprends Routel Krief, mais je pourrais en prendre d'autres, ils disent oui, mais les gens vont chez Drucker ou vont chez Ardisson parce que, finalement, c'est sympa pour eux, on les valorise. Chez Drucker, peut-être. Chez moi, en tous les cas...
C'est très ambivalent.
Oui,
c'est
je suis pas... Ce qui les rend sympathiques, c'est de venir. Je crois que finalement, Balladur, même s'il avait rien dit, le fait qu'il vienne sur le plateau, tout le monde dit, il est sympa, il vient chez Ardisson. Je veux dire, par là, c'est même pas ce qu'il dit, parce qu'il n'a pas dit grand-chose finalement, mais c'est le fait de venir qui les rend sympathiques. Panafieu, quand elle prend Elise Moon sur ses genoux, bon voilà, ouais. C'est pas un acte politique
mais
héroïque.
Au fond, les hommes politiques, parce qu'on a du mal à voir à travers vos émissions, vous les estimez en tant que groupe, en tant que classe, ou est-ce que vous les méprisez un peu?
Franchement, j'en ai... Non, honnêtement. C'était... Non, c'est... oui, enfin... Je ne
pense pas du tout qu'ils s'en foutent, non.
Non, c'est pas ça, mais c'est vrai que... Je considère que pour se faire élire, il faut raconter beaucoup de mensonges et certaines fois piquer dans la caisse. Et que c'est vrai que ça, c'est un... C'est le système qui est comme ça, hein. Mais c'est vrai que... J'aime pas le discours qu'ils ont. Je trouve qu'ils sont pas assez directs. Il suffirait de dire les choses d'une façon beaucoup plus simple et beaucoup plus directe. C'est pour ça que je les traite comme ça.
Mais enfin, vous qui connaissez bien l'histoire, vous savez bien que l'histoire de la politique, c'est l'histoire de la dissimulation, c'est l'histoire du mensonge.
Je veux dire, les grands. C'est pas ce que je préfère dans l'histoire. Talleyrand n'est pas mon héros favori dans l'histoire de France, par exemple.
Oui, mais tout le monde a menti. Napoléon a menti, tout le monde a menti.
Non, moi je pense qu'il devrait, sérieusement, il gagnerait beaucoup à s'exprimer d'une façon, en dire les choses d'une façon plus directe, plus claire et plus...
Ouais.
Non, mais comme si je ne travaillais pas dans cette émission-là, je peux en parler. Je ne suis pas du tout fasciné là, par les questions. Enfin, je trouve pas ça, le fait que Thierry pose des questions qui soient... effectivement forte aux hommes politiques et le fait qu'ils acceptent de venir en émission, tout ça me fascine pas pour une bonne raison, c'est qu'on est rentré aussi dans l'ère de la transparence et les hommes politiques le savent bien. Thierry Ardisson le sait bien que en tant que concept là, toujours pour rester sur le côté publicitaire de Thierry Ardisson, il sait bien qu'en ce moment on est dans l'époque de la transparence qui permet de faire cette émission là.
Donc vous pensez qu'il suit la mode là?
Ah oui, non mais c'est pas une question de mode, c'est pas de la mode, c'est ce qui se passe en ce moment. On est dans l'ère de la transparence, c'est ce que tout le monde veut, les hommes politiques veulent ça, le public veut ça, la société veut ça, et donc voilà, c'est une émission de la transparence où on peut dire effectivement, alors vous étiez à tel moment, les frégates, vous saviez, oui, non, et tout le monde vient...
Tout le monde a intérêt, il y a des intérêts convergents, quoi.
Tout le monde a intérêt à dire, moi, toute la société a intérêt à dire, nous sommes transparents.
Avec ce petit bémol, c'est quand je dis à Jacques Toubon, quand je lui parle de sa belle-fille qui est impliquée dans l'affaire d'Isola 2000... ou quand je lui parle de l'immeuble grand écran Place d'Italie qui a été construit par son beau-frère, excusez-moi, lui, il n'est pas d'accord pour la transparence ce jour-là. Hein. Faites-moi confiance qu'il m'en a voulu, j'en sais rien.
Il y a d'autres exemples, parce que c'est vrai qu'on ne se sort pas toujours très bien d'une émission d'Ardisson, il faut le dire. Hein. C'est
une émission de Schneider, même.
On verra, il nous reste quelques minutes pour le savoir. Alors, on a pris deux exemples d'interviews très très différentes que vous avez faites, que France Arvois est allé faire comparer au lycéen de première de STT, du lycée industriel et commercial privé de Tourcoing dans le Nord.
Mais elle soutient de Villepin, le secrétaire général de l'Élysée. Non, ne le dites pas. Voilà, ne le dites pas. Bon. Vous avez le soutien de Bernadette. Ne le dites pas, on le sait. Le problème de Françoise de Panaché, c'est qu'elle a le soutien de Chirac. Et lui, la dernière fois qu'il a soutenu quelqu'un, c'était Delevoye, ça n'a pas marché. Ça vous inquiète pas?
Non, mais attendez une minute. Ça vous embête pas de taper dans les mains, là, parce que j'ai le soutien, là. Allez-y, là.
C'est votre jingle de campagne, lisez-moi.
Là, justement, il pose des questions qui pourraient mettre mal à l'aise. Et puis, juste après, hop, une note d'humour. Et puis, donc, ça se passe bien pour que ça se passe bien, quoi.
Elle essaie de trouver le soutien avec le public. Et pour un peu la rassurer, la remettre dans le bain, il lui lance le jingle pour lui montrer qu'en fait, il est de son côté et qu'il la soutient.
Il rigole avec Françoise comme si c'était sa copine. Donc il se moque un peu d'elle, mais il essaye de la mettre à l'aise aussi.
Sérieusement, j'ai pas un peu honte d'avoir été sur la liste de Bernard Tapie, non?
Non, pas du tout. Non, parce que nous avons fait une campagne très européenne, bien avant tous les autres. Mmh. Nous avons parlé de l'Europe fédérale, alors c'était pas encore
Tapie, l'homme Tapie, ça vous gêne pas
de l'avoir été? Le personnage, il a ses défauts, oui, comme d'autres ont des défauts.
C'est pas des défauts, là, c'est plus grave que les défauts, quand même.
Mais c'est pas le seul à avoir des défauts plus graves.
Ah, lui, il s'est fait attraper.
François de Panafu, il la mettait à l'aise. Par contre, là, en fait, il est toujours en train de couper la parole à Noël, ma mère. Et il le laisse pas vraiment s'exprimer. Par contre, Françoise de Panafieux, on voyait qu'il la connaissait bien parce qu'il l'appelait par son prénom. Là, c'est pas du tout la même chose. Il le connaît moins et il essaye pas de le rendre à l'aise, en fait.
En tous les cas, vous êtes vachement sympa. Moi, je vous aime beaucoup. Quels sont vos atouts? Qu'est-ce que vous allez faire pour Paris? Bon, déjà, planter de la marijuana sur les pelouses. Attendez, vachement bien.
Tout le monde sort avec un grand sourire et... Et il fait une petite note d'humour, comme je disais, avec la marijuana pour montrer qu'il y a un peu d'amicalité entre les deux.
Bien. Alors maintenant, comme vous êtes une femme politique, comme vous dites assez la vérité, vous n'êtes pas tellement langue de bois, hein, vous êtes assez franche du collier de perles, comme disait un journaliste.
En fait, on dirait qu'il lui dit ouvertement qu'il est content d'elle, qu'elle répond ouvertement, que si elle s'y attendait, en fait, il la félicite un peu de l'interview.
C'est l'impression que ça m'a donné. C'est beaucoup plus détendu qu'une interview politique normale. Il arrive à faire rire tout le monde, même la femme, elle qui est la femme de Françoise de Nafieux, elle tape dans ses mains, elle fait participer le public et tout, ça veut dire vraiment qu'il a réussi à mettre tout le monde à l'aise.
Bernard Tapie, il assume.
C'est un modèle qui essayait d'être un modèle.
On ne peut pas dire que mon image corresponde exactement à celle de Bernard Tapie, c'est voilà, exact. Dans toutes les circonstances, il faut assumer les choix que l'on fait.
Mmh. Donc, moi, même s'allier avec le diable.
Je ne me suis pas allié avec le diable en m'alliant avec Tapie.
On rigole plus, quoi. C'est politique, c'est sérieux, ça concerne.
Ces questions, elles sont beaucoup plus sèches, plus franches.
Il est agressif et il sourit pas, tandis qu'avec Madame de Panafieux, il mettait tout le temps des jingles, il rigolait, il disait qu'elle était gentille, tandis que là, c'est toujours un visage très fermé.
Je dirais que c'est pas à partir de la personnalité des gens qu'il va juger sa façon d'interviewer la personne, mais à partir de l'appartenance au parti politique. On voit qu'avec Madame de Panafieux, il est plus à l'aise, peut-être plus en train vers le parti de Madame de Panafieux que celui de Monsieur Mamère qui le casse tout le temps.
Bon, accusation délibérée oui. de partialité politique.
Non, je ne suis pas. D'ailleurs, j'ai dit dans un autre extrait que vous avez passé que je disais, je crois que c'est à Muselier, que c'était un parti pourri, le RPR qui servait à rien. Donc, je pense qu'on ne peut pas m'accuser de
collusion. Bon, c'est parce que vous trouvez Françoise de Panafieux sympa et Noël Mamère moins sympa, quoi.
Si, je trouve Françoise de Panafieux plus sympa que Noël Mamère, clairement. En plus, elle était déjà venue une fois. Elle s'était retrouvée à côté d'Arlette Laguiller.
La deuxième fois, on a un bonus.
Non, la deuxième fois, on se connaît un peu mieux. Donc, elle était assise à côté d'Arlette Laguiller et en face de Rocco Siffredi. Et c'est vrai que j'ai plus de sympathie pour elle que pour Noël Mamère, soyons honnêtes. En même temps, je ne suis pas du tout, je pense, alors là, sérieusement, parce que j'ai fait des émissions avec Robert Hue, on m'a dit que j'étais trop sympa avec Maxime Grémetz. Non, j'essaye vraiment, sur le plan politique, en tous les cas, je favorise vraiment personne. Donc, je crois que...
D'accord, mais sur le plan humain, ça ne vous gênez pas.
Sur le plan humain, oui, il y a des gens qui sont plus sympathiques que d'autres, bien sûr.
D'accord, que vous trouvez plus sympathique que d'autres.
Que je trouve plus sympathique, bien sûr.
Et vous trouvez que c'est un animateur de télé doit le dire.
Mais je pense que moi, en tous les cas, je pense qu'un animateur de télé se doit d'être subjectif, absolument. Je ne crois pas du tout à l'objectivité en télévision. Et je crois que moi, je suis subjectif. Alors, par exemple, cette façon de parler sans arrêt de sexe ou de drogue, c'est obsessionnel, mais c'est ma subjectivité à moi.
Mais je vous pose une question. Ceux que vous trouvez antipathiques, ils le savent avant de venir que vous les trouvez antipathiques?
Pas spécialement, non.
Ah bon?
Non, mais pas spécialement.
Vous disiez tout à l'heure, par
exemple... Non, antipathique, je dis pas antipathique, je dis moins sympathique, parce qu'antipathique...
Vous disiez tout à l'heure, par exemple, que vous aviez évoqué les thèmes à traiter avec l'entourage de Balladur.
Oui, absolument.
Est-ce que ça a été aussi le cas avec Noël Mamère?
Non, parce que Noël Mamère, non, c'était non, ça ne s'est pas fait.
Ah bon, c'est un peu à géométrie variable.
Non, on a parlé un petit peu.
Enfin,
Catherine Barma avait discuté un petit peu avec son entourage, sûrement. Mais enfin, disons que, vous savez, quand on n'est pas obligé d'évoquer les thèmes avec l'entourage, comme on dit, on ne le fait pas, oui, pudiquement, on s'en passe très volontiers. Hein. Moi, c'est pas un exercice, aller dire aux gens, on va vous parler de ça et de ça. Alors, ce que je fais, c'est que souvent, évidemment, je leur dis, on va parler de ça, je leur en parle, mais je ne m'interdis pas, comme on le disait tout à l'heure au sujet de Balladur, de leur poser des questions. Comme ça.
Alors, il y a une autre de vos opinions qui transparaît avec une certaine insistance dans vos émissions. Ça nous a beaucoup surpris depuis quelques semaines, parce que c'est aussi assez inattendu. C'est votre engagement militant pour la taxe Tobin.
Ah, oui.
Là aussi, un montage.
Arlette, est-ce que vous êtes pour la taxe Tobin?
La taxe?
Chut, personne souffle. C'est les gens du monde diplomatique qui en parlent très bien. Ils demandent qu'on taxe toutes les transactions d'argent de 1%. Vous êtes pour la taxe Tobin, j'imagine?
Bien sûr.
Il suffirait de prélever 0,0001% des transactions financières tous les jours dans le monde pour éradiquer la pauvreté.
La taxe Tobin, ça consiste à taxer à 0,1% toutes les transactions sur le marché des changes, et ça rapporterait chaque année, cette taxe-là, rapporterait 228 milliards de dollars. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous adresser à l'association ATTAC, le numéro s'inscrit sur l'écran, 01 43 36 30 54. La taxe Tobin, c'est une façon de faire la révolution sans couper de tête et sans faire couler de sang et sans goulag. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez appeler ATTAC, dont le numéro s'écrit sur l'écran. Je milite pour ça, moi.
On avait compris, hein.
Oui. J'ai rajouté d'ailleurs, le vulgaire, c'était déjà pris par Bigard en faisant référence à son fameux sketch sur les grandes causes, parce que c'est vrai que il y a quelques années, je disais toujours que ce n'était pas les stars qui servaient les causes, mais les causes qui servaient les stars. Bon. Donc j'étais contre, en général, ce genre d'attitude. Et puis, voilà, j'ai changé, comme vous le disiez en commençant. Je trouve que si ma notoriété, l'émission peut servir à faire avancer 2-3 trucs, pourquoi pas, quoi. Dont la taxe Tobin qui
est un premier point de fait.
Ah, oui, je me trompe, je suis sûr de me tromper.
0,0000.
Oui, c'est 0,1.
En fait, c'est
0,
hyper simple.
Oui,
donc,
vous allez m'expliquer.
Vos prochaines émissions, voilà. 0,1% de taxation. Alors, moi, j'ai trouvé ça sur le site d'Attaque, donc c'est très simple.
Non, mais je vous crois parfaitement. Je connais le sérieux de cette émission.
Même en téléphonant ce numéro que vous montrez sur votre. Je suis sûr que vous auriez eu la bonne info. Et donc, c'est 0,1% de taxation des transactions spéculatives sur les marchés des devises.
Merci.
Et vous êtes inscrit à l'association?
Non, j'ai fait partie d'aucune association. J'ai jamais fait partie d'aucune association. Je suis un compagnon de route, comme le dit joliment
Daniel Sénard. Alors, pourquoi je dis que c'est inattendu? Évidemment, vous avez le droit d'être pour la taxe Tobin. Mais alors, en même temps, depuis quelques années, moi, ce qui me frappe tout à fait dans votre expression publique, c'est que vous êtes un des rares personnages publics, animateurs de télé, non seulement à n'avoir pas honte de votre argent, mais même à l'étaler. Alors, on va voir, par exemple...
La presse l'étale peut-être pour moi.
Non, alors, on va voir quelques images.
Mais on a vu, il y a des très, très jolies images de vous. Alors, faisant de la gym, alors c'est pas une vulgaire salle de gym de quartier, c'est quand même le Ritz, palace parisien bien connu. Puis on vous voit nager seul dans la piscine du même palace. Vous avez aussi montré, toujours dans cette émission TV+, votre gentilhommière normande. Et vous n'avez pas omis de présenter quelques animaux domestiques que vous chevauchez avec beaucoup d'élégance. Voilà.
Oui, alors pourquoi?
Parce que, je crois, moi, si vous voulez, il y a un grand animateur de télévision qui a une maison dans le Luberon, dans les Alpilles. Et quand il reçoit les journalistes, il les convoque à l'auberge du village pour pas montrer sa maison. Moi, si vous voulez, je ne sais pas le faire, ça. Voilà, je serais pas capable de dire aux gens de TV+, on se voit pas chez moi parce que je veux pas montrer ma maison. J'ai une maison. Je suis arrivé à Paris, c'est pas de la légende, je devais avoir 50 francs sur moi. Aujourd'hui, je me suis acheté quelques biens immobiliers. Je les ai achetés par mon travail. Et j'ai aucun scrupule à non pas à les montrer, mais à accepter qu'on les filme, en tous les cas.
Oui, alors là, vous l'exprimez sur un ton très, très, très modéré.
Bien sûr.
Et effectivement, on ne peut que souscrire. Et il y a d'autres moments où votre amour de l'argent, parce que je pense qu'on peut appeler ça comme ça, s'exprime de manière beaucoup plus brutale, à la limite du cynisme. Alors, vous aviez participé l'an dernier à une émission spéciale qu'on avait faite dans Arrêt sur image, dans laquelle, précisément, vous exprimiez là-dessus, dans des termes qu'on va réentendre.
Le problème de l'écriture, c'est quand j'ai publié mon premier livre, évidemment, j'aurais pu continuer. Mais je n'avais pas envie de finir comme Patrick Grinville, prof de lettres à Angoulême, amoureux de mes élèves, écrire mon bouquin annuel ou mon bouquin tous les 2 ans, en espérant d'avoir le concours pour m'acheter un appartement. Et c'est une vie dont je ne voulais pas non plus. Donc je ne peux pas regretter, parce que de ne pas avoir poursuivi cette carrière d'écrivain, je dirais sérieusement, parce que finalement, quand je vois mes potes écrivains... ils sont là, ils tirent un peu le diable par la queue, ils sont là, ils sont obligés d'être gentils avec les critiques, voir des papiers quand leur bouquin va sortir. Enfin, je veux dire, c'est pas une vie non plus qui est très rigolote, quoi.
Vous savez quoi ?
C'est à la fois admirable de franchise et en même temps, c'est épouvantablement méprisant pour les écrivains.
Pas du tout. Je suis en train de dire que j'ai publié mon premier livre à 21 ans ou 22 ans, que Jean Cayrol et Mathieu Grasset se sont jetés sur le manuscrit pour le publier, que tout le monde pensait que j'allais faire une carrière d'écrivain. Et que j'ai pas eu le courage de le faire parce que je voulais voyager en première classe et dormir à l'hôtel dans des suites.
Ouais, mais enfin, c'est évidemment, vous vous présentez pas comme quelqu'un de lâche.
J'ai pas eu le courage du sacerdoce parce que j'ai pris Grinville, mais j'aurais pu prendre les meilleurs écrivains. C'est là où c'est tordu. Non, je crois sérieusement, c'est un problème d'ancien pauvre, ça. C'est-à-dire que quand moi j'étais petit avec mes parents, on était dans une Dauphine le dimanche après-midi, je voulais être dans une DS et on habitait dans une cité et je voulais habiter dans une propriété comme celle qui passe sur l'écran. Donc voilà, donc comme ce que je voulais, les anciens pauvres, ils veulent être riches. Quoi. Il n'y a que les gens riches qui disent que l'argent, c'est pas important.
Arnaud Vivian, vous qui êtes chroniqueur littéraire à rive droite, rive gauche, un sentiment sur ce que vous venez d'entendre?
Je me demandais avec 0,1% de votre gentilhomme, qu'est-ce que vous pouvez faire avec...
On peut éradiquer la pauvreté, oui.
Je peux avoir un numéro de téléphone.
Dans quelques villages africains, absolument.
Non, je crois d'abord, sur le problème de l'écriture, il y a une chose dont on ne peut pas soupçonner Thierry Desson. C'est de ne pas avoir voulu être écrivain. Ça, je crois que c'est clair, il en a beaucoup parlé. Bon, il aurait préféré être Paul Morand. Alors, c'est vrai que Paul Morand, lui...
Je dis Paul Morand. Enfin,
il n'avait pas trop de problèmes de...
Ben non, lui, il avait épousé une femme qui était riche, en dehors d'autres défauts.
Oui, ça résolvait le problème. Oui.
Voilà, en dehors du fait qu'elle était très antisémite, mais elle était surtout riche. Et c'est plus facile. Bien sûr, j'aurais pu épouser... J'étais fiancé à un moment avec une héritière Schlumberger, en pensant que c'était la fin de mes problèmes.
Ouais, mais quand vous recevez des écrivains, rive droite, rive gauche, quelle image vous faites d'eux Parce que quand on vous écoute en parler comme ça, on se dit, ça y est, ils se les figurent comme des minables dans leur lycée de province.
Pas du tout, je vous dis, c'est courageux. Moi, je n'ai pas eu, encore une fois, pas eu le courage d'accepter de vivre pauvrement, chichement, pour me consacrer à ce qui était finalement ma vocation, ma vraie vocation. Alors peut-être la vie est longue, j'ai 50 ans, peut-être que j'aurai le loisir d'écrire à nouveau, mais en tous les cas, voilà, moi, j'ai, comme disait Gainsbourg, j'ai retourné ma veste, c'était doublé de vison, c'est vrai.
Très bien. Alors, le dernier aspect de Tout le monde en parle, dont je voudrais qu'on parle, c'est qu'il y a quelque chose que vous y réussissez remarquablement bien, c'est à démystifier en direct tous les trucs, les subterfuges, les petits bidouillages de la télé, à commencer par ceux de votre propre émission. Regarde encore une fois un montage.
Viens, Auguste, c'est le chauffeur de salle.
Ah, c'est le chauffeur de salle.
Viens voir Auguste.
Ah, c'est toi, en fait, qui...
Ah, oui, voilà, alors Auguste, il a un truc génial. Alors, moi, je trouve ça formidable. Non. Quand il veut que les gens applaudissent, il fait ça. Allez-y. Ouais. Et voilà. Voilà. C'est la télé, c'est vachement. Hey, la télé, c'est un truc super spontané quand même. C'est génial. Charles Millon, on me dit dans l'oreillette, ça serait bien là qu'on ait une réaction de Charles Millon. Est-ce que vous avez une réaction?
Parce que sur quoi?
Je sais pas, sur tout ce qu'on vient de dire, n'importe quoi. Vous dites ce que vous voulez, c'est juste une réaction de Charles Millon.
On va passer à Cadet Olivier. On a fait petite promo tout à l'heure, on va faire grosse promo maintenant.
Bon, d'accord, allons-y, vas-y.
Qu'est-ce qu'on va faire?
Serge, tu m'envoies mon jingle, s'il te plaît. Publié Dentelle chez Grasset. Zoom, zoom, mon garçon, voilà. Très bien.
Ça veut dire quoi?
Ils sont tous fous, Roger.
C'est une
On va s'inquiéter, au début, ça fait un peu peur. Ouais. Et bien,
c'est la promo. Nous, quand on fait, c'est une émission où, quand on fait de la promo, on le dit.
L'ex-présentateur de Nulle part ailleurs, même le jour de sa prestation. Là, je vais la refaire, celle-là.
Thierry, je trouve qu'il y a un truc qui serait génial. C'est que puisqu'il y a un prompteur, il y a un texte.
On le lit tous.
On lit tous le prompteur. Ça, on va essayer. Autant prompteur. Qu'on le fasse collectivement. Vous voulez pas venir, Stéphane, Michel et Gérard?
Non, là, je peux le lire de.
Voilà, vous allez lire là.
Alors, allons-y.
Alors.
Il faut l'aider, ce petit jeune.
On va venir là.
Allez, on y va.
Allons-y. Un, deux, trois.
Deuxième position au titre, les guignols ont arrivé pendant des mois à l'antenne Guillaume Durand, l'ex-présentateur du par ailleurs. Même le jour de sa dernière prestation sur Canal.
Bon, alors évidemment, ça répond à quelle nécessité, à quel besoin?
Transparence, Arnaud le disait tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai fait une émission qui s'appelait Ardimat, qui n'a pas eu un grand succès, tu sais, quand je devais tuer le chien si l'audience baissait. Et c'est un peu des idées, disons, revisitées, peut-être plus traitées d'une façon moins indigeste. Mais j'ai tellement souffert quand j'ai commencé la télévision, du poids de la technique, du poids du rituel télévisé, que je suis ravi de pouvoir montrer aux gens et de m'en débarrasser en le dénonçant. Enfin, en le dénonçant, ça n'a rien de très... Mais bon, en le montrant, en tous les cas. Ça m'intéresse beaucoup, ça, de montrer aux gens comment c'est fait, l'oreillette, le machin. Voilà, c'est le désir de transparence, de connivence.
Vous avez l'impression de leur montrer vraiment tout ce que vous pouvez leur montrer, quoi.
Franchement, j'en dis le plus possible. Honnêtement, bon, peut-être d'autres choses que je pourrais dire, mais en général, non. Quand ça me passe par la tête, quand j'ai envie, je le fais. Voilà. J'ai du mal à me censurer.
Il y a chez vous une obsession de la sincérité, du dévoilement, dont on a du mal à penser que la contrepartie n'est pas une espèce d'obsession symétrique du mensonge, quoi. Peut-être parce que la télé est un milieu où on ment beaucoup, où effectivement on n'invite pas les journalistes dans sa maison du Luberon, mais
à l'hôtel du coin.
Mais à l'hôtel du coin.
Je sais pas, non, je pense que je suis comme ça. C'est vrai que par exemple, je supporte pas qu'on m'interdise de dire quelque chose. C'est quelque chose qui peut vraiment plus que me mettre en rogne, quoi. J'ai envie de dire toutes les vérités sont bonnes à dire. Ouais. J'avais lancé un journal dont c'était le slogan, qui est devenu un torchon et que j'ai quitté pour ça d'ailleurs. Mais au début, l'idée d'entrevue, c'était quand même de dire des choses. Qu'on a balancé 2-3 affaires, on a balancé les barbus de Cavada, on a balancé 2-3 trucs. Mais c'est vrai qu'après, par appât du gain, d'ailleurs, tout à fait clairement, j'ai laissé le journal dériver vers ce qu'il n'aurait jamais dû devenir. Donc je l'ai vendu en perdant beaucoup d'argent.
Et puis maintenant, il m'attaque. Par appât du gain, vous êtes toujours dans la confession.
Par appât du gain, oui. Ouais. Par appât du gain, parce que si j'avais accepté que ce journal vende 200 000 exemplaires, il aurait pu être de très bonne qualité. Mais pour en vendre 450 000, il fallait aller dans le trash, quoi. C'est comme à la télé, si vous voulez faire de l'audience, on sait comment faire de l'audience.
Vous êtes séparés parce que vous disiez du mal des chaînes de télé auxquelles vous vendiez.
Certainement,
vos émissions,
Emmanuel, aussi. Certainement. C'était pas sur un plan. Parce que j'ai envie de refaire de la télé, en fait, donc c'est vrai. Mais c'est quand même une affaire qui m'aurait permis. J'avais 40% du capital de la société éditrice. Un journal qui vend à 450 000 exemplaires par mois, c'est beaucoup d'argent. Donc,
Il y a effectivement une sincérité, bon, d'ailleurs, qu'on entend encore aujourd'hui sur ce plateau, là, qui apparaît très vertueuse et qui est en même temps télévisuellement suprêmement habile.
Ouais, écoutez, tant mieux.
Mais vous le savez bien.
Je suis comme je suis. C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie, je dis beaucoup de conneries. Parce que justement, j'arrive pas à dire, par exemple, la stratégie de communication. Quand moi, on me dit autour de moi, ça, tu peux en parler, ça, tu peux pas en parler. Moi, je suis incapable de faire ça. Même si je voulais, je pourrais pas le faire. C'est-à-dire que j'arrive pas, je dis les choses comme je les pense. Alors effectivement, des fois, ça peut vexer des gens ou ça peut me valoir des inimitiés, c'est normal, mais j'arrive pas.
Enfin, de moins en moins quand même, hein. De moins en moins. Je veux dire, vous avez aujourd'hui moins d'ennemis que vous en aviez il y a 15 ans.
Ça y est, vous êtes au cœur du système.
Non, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, j'ai
vous
enfin...
Vous êtes mûr pour le prime time.
Oui, ça va arriver d'ailleurs. Non, j'ai enfin... Non, aujourd'hui, j'avais du mal à dire aux gens que je les admirais, par exemple. Dire à un acteur ou à un auteur ou à un chanteur que je l'admirais, ça m'était... Je disais toujours, ouais, c'est pas mal, ouais. Quand ça me plaisait beaucoup, hein. Et maintenant, j'arrive à le dire. Non, c'est vrai, c'est peut-être ça aussi qui donne l'impression que... Parce que les questions que je pose, c'est les mêmes qu'avant. Tout le monde dit, il a changé. Je pose quand même toujours des questions assez agressives aux gens. Mais je les enrobe peut-être avec un sourire, avec un jingle. Et puis comme par ailleurs, je suis capable de dire que quelqu'un est bien, bon, ça balance.
Vous avez trouvé un truc génial. On n'a pas le temps de passer le montage. Mais maintenant, vous les faites poser par d'autres, les questions les plus brutales. Hein. Oui. Baffi, Cadet Olivier. Et... Ça, c'est pas mal, ça, le coup de la ventriloquie.
Oui, c'est vrai. Mais enfin, ils ne sont pas là pour poser des questions au départ. Ils sont là pour réagir, pour être sniper, comme je dis.
Oui. Alors, c'est ce que vous en dites le plus possible. Alors, on a cherché quand même ce que vous pouviez bien cacher dans votre émission, en partant du principe que forcément, on cache toujours quelque chose.
Bien sûr, ça, c'est sûr.
À cacher, et on a trouvé un petit truc.
On a trouvé un petit truc, oui. Vous avez invité la chanteuse Lame.
Oui.
On voit ici, c'est une jeune chanteuse. Vous avez invité une animatrice de Canal Plus qui s'appelle Anne de Petrini, qu'on voit ici. Et ces deux invités, ce n'est pas des inconnus pour vous, en dehors du fait que ce sont des inconnus pour personne, mais particulièrement pour vous, puisque vous avez une société qui s'appelle Artistique, qui s'occupe de la promotion d'artistes et de personnalités de la télé. Mmh. Et par exemple, au hasard, figure parmi les personnalités en question que vous êtes chargée de promouvoir, Lame et Anne de Petrini. Voilà.
Ce n'est pas un tout petit peu incompatible ?
Non, parce que j'inviterai Lame toutes les semaines, ou je dirai dans toutes les émissions que Lame est une fille formidable, ou alors on pourrait dire, oui, là, t'en fais beaucoup, mais je l'ai invité comme j'ai invité La Rousseau.
Vous interdisez pas de le faire, hein,
je m'interdis pas de le faire, bien sûr, ça n'a rien à voir.
Un peu quand même, je veux dire, vous contribuez quand même à sa popularité, à sa notoriété.
Enfin, non, elle vend des disques. De toute façon, même si je ne l'avais pas eu, si je n'organisais pas un certain nombre de ses concerts, pas tous ses concerts, je l'aurais invité quand même, c'est une vedette, Lame, maintenant. Mmh. Et quand elle vient, je ne suis pas plus sympa avec elle qu'avec La Rousseau.
Si vous voulez être parfaitement transparent, la prochaine fois que vous invitez Lame, vous dites « Alors, je dois dire que je suis chargée de la promotion de cette jeune dame. »
Oui, comme Daniel Schneiderman a dit que...
Ce sera vertueux et parfait.
D'accord.
Et tout le monde y gagne. Un mot de la fin sur ce...
Non, mais je crois que toute l'ambivalence de Thierry Ardisson, elle est dans son uniforme, qui fait à la fois curé, alors intégriste, défroqué, on ne sait jamais, du côté du péché, du côté de la rédemption, de la confession, ou bien de l'injure, on ne sait pas, quoi. Et on ne saura jamais. Et je me demande si lui sait, d'ailleurs.
Moi, de toute façon, je ne tiens pas tellement à savoir. Moi, j'ai toujours refusé toute psychothérapie. Je préfère vivre ma folie, et voilà.
Oui, et puis vous la faites chaque semaine à la télé. Hein.
Voilà, donc... J'ai toujours refusé de me faire.
Vous êtes payé ?
Oui.
Merci pour cet exceptionnel numéro de franchise.
Très heureux
de parler de Tout le monde en parle. Rediffusion de cet arrêt sur image jeudi à 10h50. Prochain arrêt sur image dimanche prochain à 12h30. Au revoir à tous.